Quelle est selon vous l'attribut, la caractéristique dominante de l'Éternel? Je vous entends réfléchir. Eh bien, c'est la sainteté. Dans le chapitre 8 du livre des Nombres que j'ai commencé, il est encore une fois question de la purification rituelle des Lévites. Ça revient sans cesse, encore et toujours. Avant que cette tribu sacerdotale puisse avoir accès au service sacré de l'Éternel, il est nécessaire que tous les membres se rendent purs de manière cérémonielle, afin qu'ils soient agréés par le Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, rien de tout cela n'existe parce que Jésus-Christ est venu accomplir la loi sous tous ses aspects, parfaitement et une fois pour toutes. La vraie question que je puis me poser est donc celle-ci. Ai-je, moi, accès auprès de Dieu et ai-je reçu le pardon de mes fautes? Car tel était le but de tous ces rites contraignants et complexes de l'Ancien Testament. Pour en revenir aux Lévites, la fonction spécifique des trois clans a déjà été fixée précédemment. Ils démontent, transporte et remonte le tabernacle. Maintenant va avoir lieu leur entrée en fonction officielle. Je lis. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Sépare les Lévites du reste des Israélites et purifie-les. Voici comment tu procéderas pour les purifier. Tu les aspergeras d'eau purificatrice, puis ils se raseront tout le corps et laveront leurs vêtements. Alors, ils seront rituellement purs. Versets 5 à 7. Cette purification consiste uniquement dans les trois actes qui sont énumérés. Ils sont tout d'abord aspergés d'une eau dont la composition nous est donnée un peu plus loin et que je lis. Un homme rituellement pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp dans un endroit pur où elles seront conservées pour la communauté des Israélites, pour la préparation de l'eau purification. Fin de citation. Ensuite, ils se rasent les poils du corps et lavent leurs vêtements. Évidemment, tous ces rites ne changent strictement rien à quoi que ce soit au niveau physique, chimique, moral ou spirituel. Ce qui compte, c'est que l'Éternel l'ordonne et demande obéissance. Ce genre de rite me fait poser une question. Si ce que Dieu fait dans le monde ou dans ma vie, je ne le comprends pas ou bien je trouve que ça n'a pas de sens, comment vais-je réagir? Est-ce que je me soumets quand même à lui ou est-ce que je me rebelle? À chacun de répondre. Pour ce qui est de la purification rituelle des Lévites, ils sont seulement aspergés, ont les poils rasés et leurs vieux vêtements lavés. Cette cérémonie est bien moins imposante que celle requise pour les prêtres qui étaient consacrés, oints, devaient prendre un bain, recevaient de nouveaux habits et nécessitaient un sacrifice d'investiture au cours duquel on leur appliquait du sang. Cette différence s'explique par le fait que les prêtres étaient à proximité de l'Éternel dans le service du sanctuaire alors que les Lévites n'étaient que leurs aides de camp en quelque sorte. Cependant, que ce soit les uns ou les autres, le même principe prévaut. Avant de pouvoir servir Dieu, je dois être purifié de mes fautes. C'est exactement ce que Jésus a communiqué à ses apôtres lorsqu'il leur a lavé les pieds. Je lis le passage. Jésus versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » « Sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Fin de citation. Je continue le texte. Ils prendront un jeune taureau avec l'offrande correspondante, c'est-à-dire de la fleur de farine pétrie à l'huile. Tu prendras un second taureau comme sacrifice pour le péché. Verset 8. Le premier taureau est offert en holocauste, c'est-à-dire qu'il symbolise la consécration des Lévites au service de l'Éternel. L'autre est un sacrifice pour couvrir leurs fautes, car comme tous les hommes, ils se rendaient coupables devant Dieu. Toutes ces immolations d'animaux ont été remplacées par la mort expiatoire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour s'approcher et se consacrer à Dieu, il n'y a plus besoin de supprimer une vie en versant son sang. La croix a joué ce rôle une fois pour l'éternité. Il me suffit simplement d'un acte de foi pour être accepté par Dieu et avoir accès au trône de sa grâce. Je continue le texte. Tu feras avancer les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute la communauté des Israélites. Tu feras avancer les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront les mains sur eux. Alors, Aaron fera devant l'Éternel le geste de présentation pour m'offrir les Lévites de la part des Israélites et ils seront affectés à mon service. Versets 9 à 11. Cette imposition des mains par les anciens du peuple signifie que les Israélites acceptaient le principe de substitution proposé par l'Éternel. Par ce geste, ces pères de famille transmettent aux Lévites la charge de servir au tabernacle, ministère qu'auraient dû remplir tous les premiers-nés du peuple. Toute l'assemblée d'Israël doit assister à la cérémonie, car tous sont concernés par le service des Lévites. Le geste de présentation était un acte balancé très symbolique. Il signifiait que les Lévites étaient une offrande que le peuple présentait à l'Éternel. Mais celui-ci les rendait à Israël afin qu'il soit à son service dans les actes du culte. Et c'est ainsi que les Lévites étaient à la disposition des prêtres pour le bénéfice du peuple. Dans la perspective du Nouveau Testament, tous les chrétiens sont un peu comme des Lévites. Je lis à ce sujet une prière de Jésus. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Fin de citation. Les croyants appartiennent à Dieu qui les a donnés au Christ afin qu'ils servent les autres. Je continue le texte. J'ai pris les Lévites en échange de tous les fils aînés, israélites, et je les ai donnés à Aaron et à ses fils d'entre les Israélites pour qu'ils accomplissent le service des Israélites dans la tente de la rencontre, afin que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau pour s'être approchés du sanctuaire. Versets 18 et 19. Les Lévites remplaçaient et représentaient les Israélites dans la garde et le service du sanctuaire. En appartenant à l'Éternel, ils étaient exempts de tout service militaire, de toute corvée de travail, dans les champs ou auprès des troupeaux. Je continue le texte. L'Éternel parla encore à Moïse à ces termes. Les Lévites âgés de 25 ans et plus seront recrutés pour accomplir un service dans la tente de la rencontre. À 50 ans, ils se retireront du service et n'exerceront plus leurs fonctions. Ils aideront leurs collègues à accomplir le service dans la tente de la rencontre, mais ils n'auront plus eux-mêmes de service actif. Telles sont les dispositions que tu prendras à l'égard du service des Lévites. Versets 23-26. Après avoir atteint la cinquantaine, le Lévite ne prend plus part aux travaux les plus pénibles liés au montage, démontage et surtout le transport du tabernacle. Mais c'est pas pour cela qu'il partait en villégiature quelque part au bord de la mer Rouge. Il n'entrait pas dans une retraite complète, mais aidait ses plus jeunes frères dans la garde et le soin des meubles sacrés. Les rabbins prétendent qu'une fois que le voyage dans le désert fut terminé et le sanctuaire devenu fixe, un temple, il n'y avait plus d'âge pour partir en retraite. Nous arrivons maintenant au chapitre suivant, le 9 des Nombres. Il va s'agir de la célébration de la Pâque qui a précédé les événements rapportés dans les premiers chapitres. Le moins qu'on puisse dire est que ce livre n'est pas écrit dans un ordre chronologique. Je commence à lire. Le premier mois de la deuxième année, après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï et lui dit « Que les Israélites célèbrent la Pâque à la date fixée. » Verset 1 à 2. Israël est toujours stationné au pied du mont Sinaï. Cette Pâque, dont il est question, fut la dernière que le peuple célébra avant son entrée dans le pays de Canaan, quelque presque 40 ans plus tard. En effet, tout ce temps à tourner en rond dans le désert était en fait une marche de la mort destinée à tuer le temps jusqu'à ce que la génération rebelle disparaisse. Ni la célébration de la Pâque, ni même la circoncision ne furent pratiquées alors que cette dernière était le signe par excellence de l'alliance entre l'Éternel et Israël. Je continue le texte. Or, il arriva que des hommes qui s'étaient rendus rituellement impurs par le contact avec un mort ne purent célébrer la Pâque ce jour-là. Ils allèrent trouver Moïse et Aaron ce même jour. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, si quelqu'un d'entre vous, maintenant ou dans les générations à venir, se trouve en état d'impureté rituelle par son contact avec un mort, ou s'il est en voyage au loin, il pourra quand même célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le soir du 14e jour du second mois qu'ils la célébreront à la nuit tombante, en mangeant l'agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. Si un étranger installé chez vous veut célébrer la Pâque de l'Éternel, il se conformera au rituel de la Pâque et aux ordonnances qui s'y rapportent. Il y aura un seul et même rituel pour l'immigré et pour l'autochtone. » Verset 6, 9 à 11 et 14. L'état d'impureté rituelle suite au contact d'un mort durait 7 jours. Ces Israélites, ainsi souillés, avaient le désir sincère de célébrer la Pâque avec l'ensemble de la communauté. Dieu, dans sa bienveillance, dicte une ordonnance qui permette à la fois le respect des règles de pureté rituelle et la participation à la Pâque. Cette deuxième fête aura lieu un mois plus tard, jour pour jour. Le rituel de célébration doit suivre les ordonnances fixées par la loi et s'applique de façon identique aux Israélites et aux étrangers. Ces derniers devaient bien sûr être circoncis, c'est-à-dire avoir accepté d'entrer dans l'alliance avec l'Éternel. Je continue. Le jour où l'on érigea le tabernacle, qui sert de tente aux tablettes de l'acte de l'Alliance, la nuée le couvrit. Le soir, cette nuée au-dessus du tabernacle devint comme du feu et resta là jusqu'au matin. Il en fut continuellement ainsi. Le jour, la nuée couvrait le tabernacle, et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Versets 15 à 16. Ce qui est raconté à partir d'ici s'est déjà passé le premier jour de la seconde année et se trouve dans le livre de l'Exode. Moïse le répète dans le but de donner quelques détails supplémentaires. Ce passage indique que le tabernacle sert de tente aux tables de la loi. Cette affirmation un peu surprenante montre l'importance capitale des 10 commandements qui sont considérés comme le centre vital du tabernacle, l'endroit où repose la gloire de Dieu. Ces tablettes étaient à l'intérieur du coffre, dans la partie qui s'appelle le lieu très saint, caché derrière le voile qui séparait le sanctuaire en deux. La nuée de jour et l'apparence de feu la nuit étaient des théophanies, c'est-à-dire des manifestations visibles de la présence de l'Éternel. Ces témoignages de la présence divine étaient une marque distinctive d'Israël. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, y fait allusion et y ajoute d'autres caractéristiques propres à ce peuple. Je le cite. « C'est aux Israélites qu'appartiennent la condition de fils adoptif de Dieu. La manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses. À eux, les patriarches, et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Il est au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. » Fin de citation. Je continue le texte. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp. Et là où elle s'arrêtait, ils dressaient leur campement. Ainsi, c'est au signal de l'Éternel que les Israélites levaient le camp et à son signal qu'ils le réinstallaient. Aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle, ils ne bougeaient pas de l'endroit. Même si elle s'attardait longtemps sur le tabernacle, ils observaient fidèlement les indications de l'Éternel et ne partaient pas. Parfois, la nuée ne s'arrêtait que quelques jours sur le tabernacle. C'était toujours au signal de l'Éternel qu'il dressait le camp et qu'il le levait. Il arrivait même qu'elle ne s'arrête que durant une nuit. Lorsqu'elle s'élevait le matin, il levait le camp. Ou bien, elle s'élevait après un jour et une nuit. Aussitôt, il partait. Qu'elle demeure deux jours ou un mois, ou plus longtemps encore sur le tabernacle, les Israélites restaient campés sans partir. Ils levaient seulement le camp lorsqu'elle s'élevait. Versets 17 à 22. C'était l'Éternel et pas un comité extraordinaire qui décidait combien de temps le peuple allait demeurer au même endroit. Supposons que Samuel aime la pêche et il se trouve que le peuple campe devant une rivière à truites. Il aimerait bien y rester quelque temps, mais ce n'était pas lui, ni son chef de tribu, ni même Moïse qui décidait, mais l'Éternel et personne d'autre. C'est ainsi qu'Israël a passé un an au pied du mont Sinaï. Mais je n'ai aucune idée s'il y avait à cette époque une rivière poissonneuse à cet endroit. Donc, si en se levant le matin, les responsables du peuple constataient que la nuée s'était élevée, alors l'ordre était donné de plier bagages. Il est fort probable que les prêtres et lévites pouvaient démonter et empaqueter le tabernacle en moins d'une heure. C'est ainsi que l'Éternel indiquait le moment du départ et de l'arrivée, la direction à suivre et le lieu de chaque campement. La longue énumération des formes adverbiales que je viens de lire, longtemps, ce qui peut s'étendre à des années entières, quelques jours, une nuit, un jour et une nuit, deux jours ou un mois, a pour but d'insister sur la rigueur avec laquelle les Israélites devaient suivre les ordres de l'Éternel dans leur marche, et cela sans tenir compte de leurs préférences. Je finis le chapitre. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils dressaient le camp et le levaient. Ainsi, ils observaient ce que l'Éternel indiquait conformément aux instructions qu'il leur avait données par l'intermédiaire de Moïse. Verset 23. Cette direction divine, surnaturelle, est restée gravée dans la mémoire d'Israël. Elle est rappelée à plusieurs reprises par les auteurs de l'Ancien Testament comme preuve de la fidélité et de la bienveillance de l'Éternel envers son peuple. Nous voici rendus au chapitre 10 du livre des Nombres où a lieu la dernière préparation avant de lever le camp, puis le grand départ en direction du pays promis. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Fais fabriquer deux trompettes d'argent martelées. Elles te serviront pour convoquer la communauté et donner le signal du départ au camp. » Verset 1 à 2. Le nombre 2 est le minimum requis pour servir de témoignage dans les textes sacrés. C'était sur la déposition d'au moins deux témoins qu'on réglait les problèmes. Chacun des fils d'Aaron reçoit une trompette en argent, droite et d'environ 1 mètre de long. Elles étaient battues à partir d'un seul lingot d'argent, ce qui donnait au son une plus grande portée. Je continue. Dès que ces deux trompettes sonneront ensemble, toute la communauté se rassemblera auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les chefs des corps d'armée d'Israël se réuniront auprès de toi. Versets 3 et 4. Chacun sonnait sur un ton différent de manière à ce qu'il fût évident que le son émis provenait des deux trompettes retentissant ensemble. Il y avait deux façons distinctes de les utiliser, soit en donnant ce qu'on appelle des coups de trompette, soit en soufflant de manière continue. Il est souvent question de trompette dans le Nouveau Testament, et toujours en relation avec les événements futurs. Voici quelques passages significatifs. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Fin de citation. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.